Comme pas mal d'entre nous, vous êtes probablement en télétravail depuis début janvier et même avant. Le travail depuis chez soi, c'est devenu presque une habitude et c'est à peu près la seule chose positive dans cette pandémie qui n'en finit pas. Alors c'est sûr que le télétravail, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, dans de nombreuses entreprises, c'est tout simplement impossible. Mais dans une bonne partie du secteur des services, travailler depuis chez soi, c'est quasiment devenu une seconde nature. Mais pour que le télétravail finisse par s'imposer comme une solution de long terme pour un maximum de personnes, il faut encore que les outils soient bien adaptés. Ça tombe bien, c'est le cas du Mac et des appareils d'Apple en général. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du Club Hygiène. Aujourd'hui, nous allons parler d'Apple en télétravail et d'Apple en entreprise. C'est sûr que c'est un sujet moins sexy que de parler de rumeurs ou de nouveaux matos, mais ce thème est devenu central dans la vie de beaucoup d'entre nous et dans notre vie quotidienne. Pour en parler, j'ai invité Mathieu Castel. Mathieu, tu es ingénieur système chez Jamf, le spécialiste du déploiement d'appareils Apple en entreprise. Salut Mathieu.
Salut Mickaël.
J'ai aussi avec moi Guillaume Jett, tu es le grand spécialiste français de Le Game Boy et surtout tu es consultant Apple indépendant pour les entreprises où tu prodigues des conseils en infogérance. Salut Guillaume.
Oui, je suis spécialiste en conseil de l'infogérance, tout à fait.
Avant de commencer, je voulais d'abord vous poser une question toute simple, mais à la réponse sans doute plus compliquée. Comme on va y revenir tout au long du podcast, je vais vous demander simplement juste une impression rapide sur Apple et l'entreprise. Comment est-ce que ça va, Guillaume ?
Écoute, ça va pas mal, je crois. En tout cas, les gens qui travaillent dans le monde Apple et qui sont liés à l'entreprise sont plutôt contents. On sent que c'est un secteur sur lequel Apple pousse pas mal. Le télétravail l'a fortement aidé l'année dernière, je pense, puisque les derniers chiffres de vente qui sont tombés montrent que le Mac s'est très très bien vendu. Et que même que le passage au M1, on aurait pu penser que ça ralentirait, mais au contraire, ça accélère a priori le mouvement. Donc, il y a de quoi être plutôt satisfait, ouais.
Mathieu, même constat chez Jamf ?
Oui, j'aurais tendance à dire que ça va même de mieux en mieux. C'est vrai qu'il y a quelques années, Apple, c'était plutôt des solutions qui étaient, surtout si on parle du Mac, cantonnées à des usages où la marque a une véritable empreinte, le marketing, la communication, la presse, le design, le cinéma, pour citer que. Mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, c'est un mouvement qui s'accélère. En fait, Apple a réussi à briser ce plafond de verre et on voit maintenant de plus en plus des Macs et des iPads aux mains de commerciaux, de développeurs, de dirigeants qui sont même qui étaient traditionnellement des utilisateurs de Windows. Et je rajouterais à ce qu'a dit Guillaume que chez Jamf, nous, on a vraiment vu la lame de fond qui est le Mac M1, avec plus d'un million de Mac M1 qui ont été déployés cette année avec Jamf. Donc c'est vraiment un gros succès. Et d'ailleurs, on anticipe que plus de la moitié des ordinateurs aux États-Unis en entreprise seront des Mac d'ici la fin de la décennie 2020-2030, et peut-être même avant. Donc on espère.
Merci à vous deux pour ces premières réponses. Elles vont nous servir un petit peu de fil rouge tout au long de cette conversation. Alors d'abord, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Jamf ou qui ont une idée un peu floue sur ce que vous faites, Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement votre métier ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, en ce qui me concerne, chez Jamf, ça fait à peu près 3 ans que j'ai franchi le pas. Je suis ingénieur système, donc je suis plutôt un profil avant-vente, ce qu'on appelle. Et Jamf, maintenant, a 20 ans. Et notre mission principale, c'est ce qu'on appelle d'aider les organisations à réussir avec Apple. On a plus de 60 000 clients à travers le monde qui gèrent plus de 25 millions d'appareils Apple, que ce soit dans des toutes petites entreprises, des cabinets d'architectes, dans la restauration, des cafés, etc., jusqu'à des grands groupes et des multinationales. Comme Engie, France Télévisions ou encore IBM et même Apple eux-mêmes qui nous utilisent en interne pour gérer leurs appareils de leurs salariés depuis plus de 10 ans. Et en fait, ce qu'on a bâti depuis maintenant ces 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle l'Apple Enterprise Management, qui s'intéresse à tous les aspects d'intégration des produits Apple en entreprise, de l'expérience utilisateur à la gestion en passant par l'identité, la protection des appareils et le réseau.
Ah, c'est intéressant ce que tu nous dis sur Apple qui utilise des solutions Jamf. Comment est-ce que ça se passe en fait entre vous ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu votre fonctionnement ?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc ils l'utilisent en interne pour leurs employés. Donc ce que je te disais, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'ils nous utilisent. On a une petite équipe. Alors on a des équipes au Texas et à Cupertino, assez proche d'Apple pour cette partie gestion. Et puis ils les utilisent également, alors ça c'est un peu moins connu, mais dans les Apple Store pour permettre très rapidement de réinitialiser tous les soirs les Mac, les iPhone, les iPad qui sont présents sur le floor, comme on dit.
Ouais. Guillaume, du coup, toi, tu vas pas échapper à la même question. Un consultant Apple, ça sert à quoi finalement?
À prendre du pognon de ses clients.
Voilà, très bien, merci.
Forcément.
Voilà. Disons la vérité.
écoute, on est là pour l'argent d'abord. Moi, mon travail aujourd'hui, moi, je me vends comme architecte d'expérience Apple, en fait. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, mon travail, c'est d'aider en fait, à ce que les produits Apple s'intègrent bien dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils s'intègrent bien au système existant, mais aussi pour accompagner les clients, pour que les nouveautés qu'Apple propose soient aussi proposées aux utilisateurs. Parce qu'en fait, la difficulté, en fait, c'est que dans le monde Windows, les entreprises sont très frileuses en fait à la nouveauté. Souvent, t'as un système qui fonctionne, qui bouge pas, et on le maintient pendant des années, et il est figé. Alors qu'Apple a un rythme très très rapide de mise à jour, de nouveaux produits. Ouais. Quand un nouveau produit sort, ben tu vois typiquement les MacBook Pro M1, ben ils sortent, mais ils sont équipés tout de suite du dernier OS de la marque. Ouais. Donc tout ça, ça crée des complications. Donc il faut que moi, je vais essayer d'aider, en fait, je vais essayer d'aider mes clients pour que ces transitions et ces intégrations se fassent le mieux possible. Mmh. En s'appuyant sur des solutions comme Jamf, justement, pour pouvoir permettre d'intégrer au mieux le produit Apple dans l'environnement du client. Et moi, je rajoute en fait une couche, donc qui est plutôt la couche de l'expérience Apple, parce qu'Apple, quand ils vendent un produit, et moi, j'ai fait des formations de formateurs chez Apple. J'ai suivi des formations de vendeurs chez Apple il y a longtemps. Ouais. Mais Apple, en fait, il t'explique bien qu'ils ne vendent pas juste un matériel, ils vendent une expérience. Mmh. Une expérience, ça va de l'ouverture, enfin, de l'acte de présentation du produit, la keynote, voilà, la mise en scène de la keynote, etc. La mise en scène sur le site web, la vente du produit donc dans les Apple Store ou en ligne, la réception du produit, l'ouverture du carton, parce que tu sais que les cartons sont calibrés de façon très précise pour que le carton s'ouvre pas trop vite ni pas assez vite. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'expérience, jusqu'au support utilisateur, etc. Donc moi, j'essaie de voir un petit peu aussi comment faire en sorte de parfois changer un petit peu l'approche des clients pour que ça corresponde plus à une approche Apple qu'à une approche informatique classique, entre guillemets.
Le confinement et le télétravail obligatoire dans les entreprises qui le peuvent, ça a créé de nouvelles opportunités, j'imagine, pour toi, Guillaume. Mais j'imagine aussi qu'il a fallu s'adapter. Et j'ai envie de dire, il a aussi fallu que toi aussi, tu t'adaptes à cette nouvelle réalité. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu as été soudain assailli de coups de fil désespérés de clients?
Alors, en fait, dans mon activité, on a deux... mon entreprise, en fait, gère deux activités. Mais ça a été intéressant parce que justement les deux activités, on a dû gérer les choses de façon assez proche finalement. Ouais. On a une activité, on fait de la gestion d'infogérance pour des clients, donc au contrat client final, voilà, où on fait la gestion de leur parc informatique. Ceux-là, pour la plupart, pas mal étaient prêts, mais il y en avait qui n'étaient pas du tout prêts, très clairement. Même si on avait averti qu'il pouvait y avoir des risques, etc. Le problème, c'est qu'entre le moment où tu donnes l'information et le moment où ça arrive... au niveau managérial, ou juste que l'idée pop et ils disent, ah bah tiens, en fait, c'est vrai que ce qu'il a dit il y a 3 mois, c'est peut-être pas si idiot que ça. Mmh. Parfois, il faut un certain temps, et puis des fois, c'est juste au moment où l'événement arrive qu'on se dit, oula, on n'est pas prêt. Oui. Donc là, il a fallu que parfois, on se dépêche, on gère les choses en urgence, et oui, le premier confinement, bah, les 15 premiers jours ont été épuisantes. Mmh. Mais vraiment, enfin, on a travaillé à distance pour que tous nos clients puissent se connecter à distance, puissent travailler, enfin voilà. Ouais. Sachant que tout le monde n'est pas forcément équipé d'un portable Apple. Certains étaient équipés d'un iMac. Ouais. Certains utilisaient leur ordinateur personnel, ce qui pose des problèmes de sécurité. Ouais. Donc là, il a fallu qu'on réadapte aussi certaines façons de travailler. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui, un client qui me dit, bah tiens, utilisateur veut se connecter au réseau de l'entreprise, est-ce que c'est OK? Je fais, bah non, parce que moi, j'ai pas les solutions de sécurité qui sont en place pour m'assurer que sur la machine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des malwares qui se baladent. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il a fallu s'adapter, il a fallu expliquer aussi aux clients que, ben, ils ont des nouvelles problématiques de sécurité peut-être à gérer, il faut s'en inquiéter. Ouais. Voilà. Donc, certains étaient plus ou moins prêts que d'autres. Il y en a qui ont une approche cloud, donc eux, ils avaient un peu plus d'agilité que les autres. Mais ceux qui utilisent un serveur connecté, j'ai par exemple beaucoup de cabinets d'architecture, parmi les clients. Les archives utilisent des solutions qui sont très axées serveurs centralisés et pas du tout solutions cloud. Et là, du coup, ben, ça a coincé. Ouais. Forcément, ça a coincé parce qu'il y avait quand même que l'activité continue. Et donc, ils ont dû adapter très, très, très vite. Mais on les a accompagnés. Mm-hmm. À côté de ça, moi, j'avais un de mes clients qui était un très gros client, qui, lui, pour le coup, était en pleine migration sur un parc Apple. Et il a fallu les accompagner pour la migration. Okay. Et en fait, le projet a commencé en janvier 2000, donc pendant deux mois ça a été, puis bim, voilà, le confinement, et bah, il a fallu continuer. Mais là, par contre, le gros intérêt de l'approche Apple, c'est qu'en fait, bah, ils ont mis en place chez Apple les outils qui permettent de faire la gestion de parc et les déploiements de façon très simplifiée. Et bah, c'est ce qu'Apple appelle, enfin voilà, ce qu'on appelle le DEP, enfin ou ADE selon les cas, donc le voilà, Deploy Environment Programme. Enfin voilà, ça diffère en nom. Ouais. Et en fait, ce programme, ça permet de dire, bah voilà, plutôt que la machine, plutôt qu'elle soit préparée par un technicien en usine, et puis qu'après elle soit envoyée à l'utilisateur avec le logiciel préparé, etc. On prend le carton, on envoie l'utilisateur, et c'est la machine de l'utilisateur. On va utiliser une solution comme Jamf pour tout déployer tout ce dont il a besoin pour travailler. Mmh. Dès l'ouverture du carton, on va enrôler la machine, donc on va l'intégrer dans un système de gestion d'entreprise, et on va la prendre en charge la sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment ultra efficace justement pour faciliter le déploiement des produits en entreprise durant toute cette période. Ouais. Et chez le client, ben en fait, il n'y a pas eu de ralentissement en fait du projet. Il y a un petit ralentissement, mais en réalité, tout a continué relativement vite parce que justement, on avait ces solutions qui permettaient de dire à l'utilisateur, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient sur site, qui vous prépare votre ordinateur, etc., on vous envoie la machine, vous vous débrouillez. Ouais. Et on a fait ça pour, je crois qu'aujourd'hui, ça, en deux ans, j'ai regardé, ils viennent de dépasser les 2000 utilisateurs.
D'accord.
Ah oui. 2000 Mac. Oui. Et ça a fonctionné. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu de problème majeur à part un moment. Il y a un petit souci côté Apple. Mais sinon, grosso modo, c'est quand même très bien passé.
Mathieu, chez Jamf, comme tu nous le disais tout à l'heure, votre boulot, c'est de faciliter le déploiement et la gestion d'appareils iOS et macOS. Avec la pandémie, comment ça s'est passé en fait ? Il y a dû y avoir un boom de la demande.
Oui, et puis alors, surtout que nous, on ne s'adresse pas qu'au marché de l'entreprise, on a aussi le secteur de l'éducation qui a été très impacté, le secteur de la santé aussi, on a pas mal d'hôpitaux qui ont cherché à mettre en place des solutions numériques pour faire face à l'afflux de patients. Et donc, c'est vrai que voilà, ça a été une année de forte croissance 2020 et 2021 encore plus. Donc on a atteint maintenant 25 millions d'appareils qui ont été gérés, on a pratiquement doublé notre nombre de clients. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une lame de fond. Et c'est un peu, oui, je constate un peu la même chose que Guillaume, c'est-à-dire que du jour au lendemain, beaucoup d'entreprises se sont intéressées à finalement comment je peux déployer très vite, rapidement et simplement mes appareils, même si l'employé, et surtout si l'employé n'est pas au bureau. Et donc nous, c'est une expérience qu'on appelle nous le zero touch, c'est-à-dire la capacité en fait de partir de l'usine d'Apple directement entre les mains du salarié, un Mac, un iPhone, un iPad, et il se configure tout seul. Et ça, on compte beaucoup sur des personnes comme Guillaume qui ont une vraie expertise sur ce type de déploiement. Et on a constaté également que beaucoup de grandes sociétés de toute taille, un peu en urgence, ont décidé de franchir le pas de la modernisation, de la gestion de leurs appareils, ce qu'on appelle aussi dans le jargon le modern management. Et le télétravail a clairement souligné ce besoin. Et puis, je rajouterais une chose également, et ça souligne aussi ce qu'a dit Guillaume, je dirais que ce qui coince aujourd'hui dans le cadre du télétravail, c'est tout ce qui est problématique lié au réseau. Et clairement, le cauchemar des utilisateurs, l'un des cauchemars des utilisateurs, c'est le VPN qui est devenu un peu la bête noire ou un outil quotidien de nombreux salariés des grands groupes. Et c'est un des grands enjeux pour continuer à adapter l'entreprise à ce nouveau monde, au télétravail. Il y a des solutions qui existent, qui commencent de plus en plus à être popularisées. On a ce qu'on appelle le ZTNA, Zero Trust Network Access, qui est un peu le VPN 2.0. Et puis, bien entendu, tous les outils cloud, Office 365, Google Workspace et compagnie, qui ont eux aussi eu une croissance fulgurante. Bien sûr, on pense à Zoom et Teams, qui sont un peu les deux alliés des télétravailleurs de post-2020.
Oui, en plus, alors, juste pour compléter, en plus, après, c'est vrai que c'est... Nous, oui, alors, tu as raison de vous signaler, Mathieu, la problématique du réseau était hyper importante, parce qu'en fait, les clients, ils disent, OK, c'est super, on a un serveur, on a un VPN, oui, mais même au milieu de Paris, vous pouvez avoir des endroits où vous n'avez qu'une ligne ADSL pourrie pour vous connecter à distance. Et là, les gens, ils disent, ah, mais je comprends pas, je bosse, moi, j'ai été habitué à travailler sur mon fichier InDesign sur le serveur, ça allait bien, puis là, maintenant, je peux pas bosser. Ah, bah oui. Parce que tout le monde n'est pas fibré et que la fibre, selon les cas, parfois on a de la chance, on a un immeuble fibré assez récemment et on peut bénéficier de la fibre. Mais même ça, ça demande quand même à mettre en place des solutions aussi de sécurisation, etc., qui ont un certain coût. Et puis, la fibre qu'on va installer pour du grand public n'est pas forcément adaptée à l'usage professionnel. Il n'y a pas que le débit qui compte, hein. Il y a aussi le service autour, il y a plein de choses qui comptent. Et puis, voilà. Et puis, il y a des endroits où juste, c'est pas possible, techniquement. Moi, j'ai des clients qui sont dans la zone aéroportuaire de Roissy. Faut, là-bas, il y a des endroits où, vous traversez la rue, vous avez un centre commercial où il y a des lignes 1 gigabit seconde. Vous traversez la rue, la meilleure ligne va être à 8 mégasondes, 8 mégabits. Donc, c'est une catastrophe. Et ça, voilà, enfin. Mais il faut adapter ça, et malgré tout, il faut quand même que les gens travaillent. Donc, il faut aussi, parfois, innover, essayer de trouver des solutions pour que, ce problème de bande passante de l'entreprise ne devienne pas une pénalité, trop importante, quoi. Et parfois, les gens n'étaient pas prêts du tout pour ça.
Alors justement, ça a provoqué une grosse demande et peut-être et certainement des clients déboussolés par la situation. Est-ce que votre métier, Mathieu, c'est pas aussi de s'adapter, de trouver des solutions qui vont rassurer les clients?
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on étend aussi notre portefeuille de solutions et qu'on a aussi de plus en plus d'entreprises qui vont aller chercher des nouvelles façons d'intégrer les technologies Apple en entreprise associées à des problématiques de transformation digitale. Si je recule juste d'un pas, en fait, avant que je travaille chez Jamf, j'ai travaillé chez AXA, AXA France, et on a déployé, j'étais en charge d'un projet de déploiement de 3500 iPad Pro pour des commerciaux. Et les commerciaux, ils sont dans des situations de mobilité où ils ont besoin d'aller chez des clients, d'avoir accès à de la 4G, de faire de la signature électronique. Et donc, en fait, on est vraiment dans de l'accompagnement, dans des projets de ce qu'on appelle transformation numérique, qui se sont accélérés et intensifiés avec le télétravail. Voilà.
Guillaume, on a parlé du problème de la connexion Internet qui est probablement l'un des plus sérieuses difficultés pour le télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu as vu d'autres soucis, par exemple du problème de matériel ou des logiciels mal adaptés?
Oui, logiciels mal adaptés, il y en a. Matériel aussi, forcément. Le problème, c'est que des fois, le matériel n'est pas tout jeune non plus. Quand tu utilises un iMac, c'est pas forcément la même chose qu'utiliser un portable. Parfois, les gens s'utilisent habituellement. Enfin, il y a plein de choses en fait qui des fois sont remises en cause côté télétravail. Puis des fois, oui, les gens. Enfin, il y a tout con. Hein, j'ai rencontré des fois les gens qui se disent, mais attendez, si j'utilise un portable, ça va pas être aussi puissant que mon ordinateur de bureau. Si. C'est ce qui vous manque, juste souvent, c'est un écran externe, mais c'est pas la puissance de la machine. Mais c'est vrai qu'en fait, chez certains de mes confrères aussi, on vend l'idée du mobile first. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, la mobility first, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, viser en priorité la mobilité. Il y a des entreprises qui ont fait ce choix depuis des années. Clairement, elles ont été bénéficiaires quand le télétravail a été popularisé. Parce que elles avaient anticipé le besoin, qu'elles avaient déjà mis en place du télétravail pour leurs clients. Pour l'utilisateur, et du coup, forcément, le jour où le problème majeur est arrivé, ils étaient prêts. Par contre, c'est vrai que les entreprises qui, elles, ont investi sur des iMac il y a 5 ans, 7 ans, etc., aujourd'hui, quand on leur dit, maintenant, il faut prendre la machine et puis il faut la ramener chez soi pour travailler, c'est pas très pratique. C'est clairement pas très pratique. Alors que si on a visé la mobilité en priorité, ok, j'ai un ordinateur à la maison, au pire j'achète un écran, et puis je travaille avec mon écran, mon clavier externe, c'est beaucoup plus simple. Ouais.
Une des principales difficultés, finalement, est-ce que c'est pas tout simplement de changer de manière de travailler? Parce que pour pas mal de salariés qui sont habitués à bosser au bureau, c'est un changement complet d'environnement de travail, sans compter la vie familiale qu'il faut réorganiser autour de tout ça. Guillaume, c'est quelque chose dont tu étais témoin?
Bien sûr. Alors moi j'ai de la chance en fait en plus, parce que j'ai une maison qui est assez grande pour nous permettre de nous séparer un petit peu, de nous isoler. Moi j'ai un bureau à part depuis des années, parce que je travaille en télétravail depuis très longtemps. J'ai pas de bureau en dehors de chez moi, j'avais plutôt anticipé ce besoin. Et même les premiers jours, en fait, le premier jour du confinement, j'avais organisé pour mes clients une petite visioconf en leur disant, vous allez passer en télétravail. Il y a des choses qui vont être différentes. Il faut faire attention aussi à la façon dont vous allez gérer le télétravail. Parce qu'en fait, je pense que le télétravail, la difficulté, c'est pas forcément pour les employés directement. C'est plutôt pour les managers. Ouais. Surtout qu'on a des fois une vision très si je contrôle pas un petit peu ce que fait l'utilisateur, il va pas bosser. Ouais. En réalité, je pense qu'à partir du moment où on met en place du télétravail, il faut qu'on ait confiance envers les gens. Il faut qu'on ait confiance envers ses employés. Il faut qu'on se dise OK, La question, c'est pas tellement combien de temps il va mettre pour faire une tâche, c'est est-ce qu'elle va être faite à la fin de la journée ou pas. Et il faut réfléchir en fait en se disant que le télétravail, partir sur un principe où on va faire du 9h, 17h pile poil, ça n'a pas de sens en réalité. Faut apporter une souplesse en réalité dans l'emploi du temps à partir du moment où on place la solution. C'est pas grave si quelqu'un est absent de son poste la plupart du temps, je dirais entre 13h, entre 14h et 15h par exemple, s'il doit se déplacer et que c'est organisé un minimum, c'est pas forcément très gênant. Mais vouloir conserver absolument un système très rigide d'emploi du temps pour les utilisateurs, je trouve pas ça très pertinent en fait. Faut voir un peu ce qu'apporte aussi comme souplesse le télétravail. Télétravail, ça veut dire aussi des fois pour certaines personnes peut-être gagner une heure et demie par jour le matin et peut-être une heure et demie le soir de transport. Donc c'est aussi, ça peut être ce bénéfice là aussi. Donc faut pas non plus, faut pas voir que c'est quelque chose que, ça que, comme ah là là c'est pénalisant pour l'entreprise. Alors j'ai vu encore des trucs où des entreprises disent non, il faut absolument que tout le monde travaille au bureau, même si le télétravail doit être la norme maintenant, on s'en fout, tout le monde au bureau. En réalité, je pense que pour ces entreprises, la réflexion a été trop légère sur la partie télétravail. Par exemple, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises comme Twitter, Jamf et d'autres qui disent aujourd'hui, vous travaillez où vous voulez. C'est qu'en fait, vous pouvez travailler dans un bureau si on a un bureau pas loin. Vous avez un bureau pas loin, vous pouvez aller dans le bureau. Vous pouvez travailler de chez vous, travailler dans un café, ce que vous voulez. Du moment que le travail est fait à la fin de la journée, ça va. En fait, et je pense que pour la plupart des entreprises, ça se passe plutôt pas si mal que ça, en fait.
Est-ce que de votre point de vue, le télétravail est devenu quelque chose de bien intégré après presque 2 ans de crise sanitaire? Est-ce que vous avez eu connaissance d'entreprises qui, comme disait Guillaume, où ça rechigne toujours sur le travail, le télétravail, Mathieu?
Pour être tout à fait honnête, pas vraiment, puisque c'est vrai que nos clients, surtout sur ces dernières années, c'était une problématique majeure, c'est la mobilité, et ce que disait Guillaume, mobility first. Cependant, effectivement, les enjeux principaux des sociétés qui rechignent pour faire du télétravail, c'est surtout des enjeux liés à la sécurité. Comment est-ce que finalement, je vais pas me faire infecter par un malware alors que je suis à la maison dans un réseau presque pas maîtrisé ou peu maîtrisé, est-ce que finalement je vais pas utiliser des appareils personnels ou suivre des mauvaises pratiques, ce qu'on appelle aussi le shadow IT. Donc c'est-à-dire on le voit, alors ça c'est, on le voit beaucoup dans le secteur des grandes entreprises, voire de même parfois c'est plus inquiétant dans le secteur de la santé où des salariés vont manipuler des données de l'entreprise à travers des messageries personnelles, WhatsApp et d'autres. Et donc ça c'est quelque chose contre lesquels les responsables sécurité des entreprises essayent de lutter, et ça c'est l'un des freins principaux à l'adoption du télétravail. Et on essaye nous Jamf de s'adapter à ça. On a lancé une solution qui s'appelle Jamf Protect pour aider les entreprises à protéger leur Mac. On a aussi racheté une société qui était spécialisée là-dedans qui s'appelle Wandera, et on est plus ou moins aligné avec Apple parce que finalement c'est ce que fait aussi Apple avec iCloud Private Relay qui a été introduit avec iOS 15, et on a un besoin similaire de confidentialité, de protection des données des entreprises, qui a été intensifié par le télétravail.
Alors on va parler technique un petit peu 5 minutes. Mathieu, comment est-ce que ça se passe dans la pratique? L'administrateur de l'entreprise, il va installer un logiciel et après pour le déploiement, comment ça fonctionne tout ça?
En fait, il y a un peu deux cas, c'est-à-dire le cas de l'appareil Apple tout neuf qui sort de boîte, et donc là qui va se configurer tout seul. Il y a pratiquement rien à faire. On a une solution qui est fournie par Apple qui s'appelle Apple Business Manager, qui va aller récupérer tout l'historique d'achat des appareils Apple de l'entreprise. Et en fait, on peut connecter cette plateforme Apple Business Manager à des solutions de MDM comme Jamf. Et donc, d'accord, en fait, à partir du moment où le Mac, l'iPhone, l'iPad va s'allumer, hop, il va aller communiquer directement par le biais du processus d'activation d'Apple et va ce qu'on appelle s'enrôler dans le MDM. Et puis après, l'administrateur, lui, il peut envoyer des configurations. Il peut dire, par exemple, il peut vous déployer sur votre iPhone votre boîte mail. Il peut appliquer des restrictions. Il peut lancer le chiffrement FileVault de votre Mac et l'appliquer automatiquement pour l'ensemble de ses collaborateurs avec plus ou moins de spécificités à prendre en compte. Et notamment sur la partie Mac, il y a beaucoup de points spécifiques. Je parlais de 5 volts il y a un instant, les spécificités qui sont liées aussi à l'arrivée d'Apple Silicon. Donc voilà, donc ça c'est un peu le cas simple. Et puis il y a le cas un peu plus compliqué où j'ai déjà des Macs qui sont préparés. Oui. Ou peut-être que mes Macs sont dans un environnement ce qu'on appelle hétérogène. Donc j'ai du Windows, j'ai de l'Android, j'ai du Mac, j'ai un peu de tout. Et donc là il y a plusieurs approches. Il y a l'approche couteau suisse, celle qu'apporte Microsoft avec une solution comme Intune sur laquelle on se connecte, et qui va permettre de gérer les appareils Windows par exemple, et de la même manière faire remonter les appareils Apple dans sa console Intune via Jamf. Donc ça c'est des approches que l'on a. Et là, la stratégie ici, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Soit on a une solution, une gestion spécialisée Apple avec des outils comme Jamf qui sont connectés, avec des outils spécialisés, séparés, comme Microsoft Intune.
Guillaume, du point de vue technique, il y a des avantages à rouler avec Apple pour une entreprise, ou finalement, est-ce que tu peux utiliser Windows ou Android et la gestion, ben, ce sera grosso modo à peu près pareil.
Et tu me poses la question à moi, ça fait 25 ans que je suis dans le monde d'Apple, tu oses me poser la question quoi. Et tu me prends pour qui, monsieur Bazouge? Vous pouvez poser des questions.
Non, ça doit arriver, des clients qui ont aussi un PC qui traîne quelque part.
Oui, ça arrive, oui, bien sûr qu'il y a un PC qui traîne quelque part. Moi, il y en a qui traînent sous une armoire normande pour la caler. Bien sûr, ça arrive. Ouais. Bon, plus sérieusement, évidemment, bien sûr que ça arrive. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que Microsoft, à une époque, ils avaient une note technique qui expliquait la fonction autopilote. Et en fait, ils disaient, c'est comme ce qu'Apple propose, en fait, depuis quelques années sur les Macs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont admis, grosso modo, que ce qu'Apple proposait, en fait, c'était le futur. Clairement, voilà. Et aujourd'hui, le programme autopilote de Windows, c'est la même chose que ce que fait Apple, et c'est la même direction, en fait, qu'Apple a proposé. Et c'est avec les mêmes approches de gestion moderne, alors ce qu'on appelle le modern management, qui est une approche assez révolutionnaire de la façon dont on gère l'informatique à l'entreprise, on gère l'ordinateur de l'utilisateur, et qui est parfois difficile d'ailleurs à pousser, parce que ça change beaucoup de choses, en fait, dans la façon dont on gère l'ordinateur. Cas pratique, par exemple, c'est dire, l'utilisateur, il est administrateur de son poste. Ça, c'est quelque chose en entreprise. Il y a plein d'entreprises qui ont commencé à l'adopter, ce système-là. Il y en a beaucoup pour lesquelles l'idée de dire que l'utilisateur, c'est l'administrateur du poste, c'est un non-sens. Ouais. Et en réalité, non, c'est pas un non-sens. C'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui sur la gestion de l'ordinateur. Ça avait un sens il y a 20 ans quand l'informatique n'était pas encore forcément très popularisée, qu'Internet n'était pas très connu, etc. Mais aujourd'hui, en fait, que l'utilisateur soit administrateur du poste, ça ne pose plus de problème. Même dans les entreprises qui ont des besoins de sécurité importants, en réalité, maintenant, l'utilisateur n'installe pas tout et n'importe quoi sur l'ordinateur. Ce qui est important, c'est que le poste soit sécurisé avec les bons outils de gestion. Donc, il faut qu'il y ait éventuellement un antivirus installé, qu'il y ait une solution de contrôle un petit peu des données, effectivement, qu'il y ait un VPN permanent qui soit actif, ce genre de choses-là qui soient mises en place. Ce qu'on fait avec Jamf et avec d'autres outils. Mais, donc, cette façon de gérer l'ordinateur implique des changements de pensée qui ne sont pas forcément évidents à mettre dans certaines entreprises.
Alors, Apple propose pas mal d'outils de production pour la bureautique, pour les communications, pour le cloud. Mais est-ce que ça rentre en ligne de compte pour les entreprises? De ton point de vue, Mathieu, est-ce que Apple a su répondre à la plupart des besoins des utilisateurs en télétravail finalement?
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'Apple investit de plus en plus dans le monde de l'entreprise et ça commence à se voir et ça va continuer. Donc j'ai parlé d'Apple Business Manager, on parlera peut-être un peu plus tard d'Apple Business Essentials, qui est un peu la suite de leur stratégie, qui sont un peu cette preuve de l'investissement croissant d'Apple dans le monde de l'entreprise. Après, c'est vrai, tu as tout à fait raison, d'un point de vue des services, si on compare à d'autres sociétés comme Microsoft ou Google, dont c'est le fer de lance, avec des services comme Azure, on parle de AWS aussi qu'on voit beaucoup, Office 365, Google Workspace. C'est vrai qu'Apple a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais petit à petit, FaceTime, la suite Pages, Numbers, Keynote, etc. commence à mettre en place des outils de collaboration pour les salariés en entreprise. Et puis on le voit, et en fait, un peu la zone d'expérimentation d'Apple, c'est le monde de l'éducation. En éducation, faire ses devoirs sur son iPad avec Pages ou Keynote, bah c'est une réalité. Et finalement, Apple fourbit ses armes dans le monde de l'éducation et commence à avoir une solution qui pourrait être intéressante. Et d'ailleurs, avec Apple Business Essentials, dont on parlera tout à l'heure, il commence également à intégrer le monde de l'entreprise et à offrir des outils de collaboration pour les entreprises. Donc, les choses commencent à évoluer dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup de retard à rattraper par rapport à Office 365 ou Google.
Ouais. Guillaume, est-ce qu'il manque des choses à Apple pour répondre à tous ces besoins en entreprise? Je pense notamment à FaceTime que Mathieu a évoqué tout à l'heure.
Ouais, en plus, la difficulté, c'est que... si tu veux, pour moi, il y a un truc qui est super important, que je rappelle régulièrement. Apple et Microsoft sont deux sociétés qui ont des... Et c'est Apple qui le dit, c'est pas moi qui le dis, ce que je vais dire, donc c'est quelque chose qui est quand même super important, c'est qu'Apple fait des produits pour le grand public qui élèvent éventuellement en fonctionnalité pour aller vers l'entreprise, alors que Microsoft est une entreprise fondamentalement tournée vers l'entreprise, vers le business, c'est vraiment du B2B, et ils essayent d'attaquer le marché grand public en adaptant leurs solutions professionnelles vers le grand public. Ça a forcément créé des difficultés parce qu'en fait, quand tu arrives dans un environnement Microsoft et que tu arrives avec de l'Apple, t'as plus de possibilités d'intégration que t'avais dans le passé, hein, clairement. Puis il y a beaucoup de solutions qui ont basculé vers du cloud, vers des solutions web. Donc, dans ce cas-là, la friction est très très faible. Par contre, demain, tu dis les utilisateurs, on va les passer sur Excel, sur Mac. Par rapport à Excel PC, ils vont se trouver un peu perdus parce qu'il n'y a pas forcément 100% des capacités qu'ils ont dans Excel Mac par rapport à ce qu'ils avaient sur PC. Et que tu as une intégration verticale très importante entre tous les composants, logiciels que tu peux avoir. Donc, certaines entreprises, en fait, aujourd'hui, adoptent le Mac, par exemple, de façon assez limité. C'est pas en fait aujourd'hui on est en train de dire le Mac va être équivalent au PC et on va faire en sorte que tout soit équivalent au PC. Donc tu vas avoir des difficultés dans ce cas-là à intégrer ton Mac dans l'environnement. Il y a des entreprises qui par contre sont vraiment sur un modèle où l'utilisateur doit avoir un Mac ou un PC et ça ne doit pas impacter son travail. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme programme. Ça arrive de plus en plus dans les entreprises où tu as le Employer's Choice. Voilà, c'est quelque chose qui a été popularisé dans les dernières années, où que tu aies un Mac ou tu aies un PC, tu travailles de la même façon et il n'y a pas d'impact. Ouais. Tout ça pour dire que il y a forcément en fait des difficultés à intégrer le Mac dans l'entreprise, mais il y en a beaucoup moins que par le passé, en tout cas. Il y en a clairement beaucoup moins que par le passé. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus adopté, en fait, parce que Apple, en plus, a réussi à se différencier sur le marché, a des solutions qui sont quand même pertinentes. Maintenant, est-ce qu'un outil comme FaceTime est pertinent dans l'entreprise? Pas forcément, parce qu'en fait, le problème, c'est que derrière, malgré tout, pour concurrencer un Teams, t'as beaucoup plus de choses que juste rajouter de la vidéo de groupe, en fait. Ouais. Donc, et je pense que pour Apple, la réflexion, elle est pas là. Et je pense que pour eux, clairement, il vaut mieux se dire Microsoft fait ses produits ou d'autres entreprises font leurs produits pour l'entreprise et ça tourne chez nous, ça va très bien. Mais par contre, pour les besoins de nos clients utilisateurs grand public, ce qu'on propose est suffisant dans 90% des cas. Et puis après, il y a le reste qui est proposé par d'autres boîtes et ça va bien. Moi, je le vois comme ça. Et je pense qu'après, ils ont essayé d'aller vers l'entreprise. Hein, ils ont essayé les plateformes macOS Server, ils ont essayé ça. Et au bout d'un moment, je pense que la concurrence elle est trop vaste et qu'à un moment, les ingénieurs, ils ne tombent pas sous le pouvoir des pommiers. Donc, tes ressources, tu les mets où tu peux.
Alors Mathieu, tu ne vas pas échapper à la question à 1000 francs. En novembre dernier, donc, Apple a annoncé le lancement d'une nouvelle offre à destination des entreprises. C'est Apple Business Essentials, qui comprend des outils qui ressemblent pas mal à ce que vous faites chez Jamf. Est-ce que c'est une concurrence qui vous inquiète?
Bon, c'est vrai que on en parle beaucoup d'Apple Business Essentials, on parle beaucoup d'Apple Business Essentials et Jamf. Et en fait, notre position à nous, elle est pas secrète, hein, c'est que c'est une excellente nouvelle. Et j'irais même plus loin, en fait, ça fait des années qu'on demande à Apple d'aller dans cette direction. Et pour être tout à fait honnête, on pensait qu'il ferait même plus tôt. On pensait que ça allait arriver il y a 3-4 ans. Et en fait, finalement, ça arrivait un peu tard. Et surtout, ce que ça va permettre pour le monde de l'entreprise, c'est que beaucoup de toutes petites entreprises qui finalement ne s'intéressaient pas à la gestion de leurs appareils Apple, qui achetaient un petit parc en Apple Store ou auprès de revendeurs agréés comme eConcept par exemple, ben ils vont pouvoir rentrer rapidement et facilement dans la gestion de leurs appareils Apple, là où en fait les solutions proposées jusqu'à présent par Apple étaient un peu vieillissante, on va pas se le cacher. Je pense à Profile Manager, je pense à Apple Configurator également. Et puis, c'est enfin l'arrivée d'iCloud dans l'entreprise.
Oui.
Et en tout cas, pour nous, c'est une première brique très intéressante et on a hâte de pouvoir commencer à proposer, à bâtir des offres technologiques autour de ça. Oui. Et puis, après, est-ce que c'est une concurrence de vis-à-vis de Jamf? Bah, ça fait 20 ans qu'on existe et des révolutions d'Apple dans le monde de l'entreprise, on en a connu un certain nombre. Au début, bon, peut-être Guillaume il s'en souvient, on faisait que de l'imaging chez Jamf, c'est-à-dire on faisait des grosses images d'OS X à déployer sur son parc. Et puis est arrivé le protocole MDM. Alors ça a été un changement, un bouleversement de façon de faire. Puis est arrivé Profile Manager. Alors, je sais plus dans quel sens exactement. Apple Configurator. Et puis on a eu Apple School Manager, Apple Business Manager. À chaque fois, on a dit bah finalement Jamf va se faire Sherlocker. Et ouais. Puis à chaque fois, en fait, ça a été une bonne nouvelle pour nous. On a pu rebondir. Ouais. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle.
En fait, le problème, c'est que la difficulté pour Apple, en fait, je pense que c'est pas tellement forcément sur la partie Apple Business Manager. Donc cette partie, c'est le problème, c'est qu'en fait, toute cette solution Apple Business Manager, etc., il y a une grosse partie qui est complexe et qui est purement administrative, en fait. Et à mettre en route chez mes clients, l'année dernière, c'était un des challenges que j'ai mis en place, c'est qu'on a dit, voilà, tous nos clients, on va les intégrer dans cette solution, dans Apple Business Manager, on va leur proposer une solution MDM derrière. Et en fait, il y a encore des freins parce que les gens, normalement, s'ils veulent par exemple intégrer directement leurs produits directement dans le MDM, en passant par Apple Business Manager, il faut qu'ils achètent leurs produits dans le circuit Apple validé, chez un revendeur Apple ou Apple en direct. Alors même s'il y a des méthodes maintenant de contournement, mais elles sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Et quand on dit aux clients, bah, vous devez acheter votre matériel chez un revendeur spécialisé, etc., il y en a toujours qui vont aller acheter leur matériel à la Fnac ou dans une autre boutique, etc., et qui arrivent le vendredi matin, lundi matin, et disent, ah, en fait, j'ai acheté un nouvel appareil ce week-end, faut l'intégrer.
Oui, d'accord.
Et là, c'est une plaie. Enfin, ça se fait, mais ça veut dire que nous, il faut qu'on intervienne pour que intégrer l'appareil proprement. C'est pas top. Ouais. Et en fait, et là-dessus, Apple n'est pas forcément super bon parce qu'en fait, typiquement, par exemple, ils proposent aux clients entreprises d'avoir des Apple Store en ligne, customisés pour eux, voilà, formidable. Mais quand on veut juste changer des rôles, ajouter des utilisateurs, des trucs comme ça, c'est un enfer en fait. C'est une tannée. Il faut contacter Apple Store, business, qui le fait pour vous, etc. Mais les procédures sont longues, les équipes sont pas forcément toujours au taquet. C'est beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être en fait. Et c'est là où on se dit parfois, voilà, Apple, il y a des moments, ce qu'ils proposent sur le papier, c'est chouette, mais s'ils pouvaient vraiment faire en sorte que les choses soient fluidifiées pour le client final, ça serait top, quoi. Et on n'est pas encore à un niveau de fluidité parfait pour l'entreprise. Alors, avec Apple Business Essentials, je pense qu'il y a des choses qui vont faciliter, clairement, qui vont être améliorées. Mais je trouve que là-dessus, on manque encore un peu de visibilité sur ce qui sera possible techniquement de faire. Donc, j'attends un petit peu de voir.
Cette pandémie, finalement, c'est un moyen d'accélérer des pratiques qui étaient plus ou moins dans l'air du temps, mais que les entreprises n'osaient peut-être pas trop mettre en place, franchement. Le jour où cette histoire de Covid sera enfin derrière nous, est-ce que vous pensez qu'on sera enfin dans un nouveau monde du travail, Mathieu?
Ouais, je pense qu'on ne sera pas sans séquelles dans le monde de l'entreprise sur ce nouveau monde. Ce que tu évoques dans le nouveau monde, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous chez Jamf, on s'attend à ce que les entreprises accélèrent le pas de la modernisation de leur IT, le modern management. Désolé, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais c'est la réalité. C'est de plus en plus d'entreprises continuent d'investir dans les solutions MDM, dans le déploiement d'outils cloud comme Teams, Zoom et d'autres. Et puis, je vais tout à fait dans le sens de ce que disait Guillaume sur la partie confiance envers les utilisateurs, de pouvoir administrer son poste, de pouvoir travailler de n'importe où. Chez Jamf, on a été en télétravail pour, on est maintenant 2000 salariés en l'espace de 24 heures. Et je pense que si demain je l'espère pas, hein, mais si demain une autre pandémie devait survenir, je pense que les entreprises seront mieux armées pour répondre à ce nouveau paradigme. Et donc ça ne peut être finalement que positif.
Guillaume, comment toi tu vois le nouveau monde et comment tu vois la place d'Apple dans ce nouveau monde?
Mieux qu'il y a 25 ans.
Oui.
Disons que maintenant l'avantage c'est que voilà ils ont de quoi revenir et puis ils ont une indépendance je pense que à plein niveau que beaucoup leur enviraient. La place qu'Apple en fait prend, je pense que ce qui est intéressant, comme disait Mathieu, c'est qu'en fait aujourd'hui Apple n'est plus limité en fait à ses marchés historiques. Et en fait, moi par exemple, ma clientèle aujourd'hui sur le marché PAO graphique, etc., est très très limitée. Ouais. Par contre, on voit plein de nouveaux acteurs qui viennent dans le monde d'Apple. Des entreprises, on pensait pas du tout voir du Mac qui débarquent et qui ont plein de Mac. Des entreprises d'ailleurs des fois qui savent pas qu'elles ont autant de Mac chez elles. Ça c'est intéressant. Ouais. Je sais pas, dans quelle boîte où des fois on leur dit ouais, y a quoi, mais même moi je l'ai vécu en fait des entreprises. On dit au départ, ouais, il y a une trentaine de Mac. À la fin de l'année, l'année dernière, on a déployé chez un client une solution Jamf. On est à 100 Mac, en fait, en réalité. Donc, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même les jeux dans l'entreprise, ils ne sont pas au courant réellement ce qu'ils ont comme produit Apple. C'est assez rigolo. C'est vécu, hein, c'est vraiment vécu. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, la partie Apple, ils ont énormément de marge de manœuvre. En fait, moi, une de mes craintes, c'est plus qu'Apple, par exemple, parle, si on regarde sur Business Essentials, sur la page Business Essentials, je vais y arriver. C'est super dur à dire en français.
C'est super dur à dire, oui.
Clairement.
C'est
dur, donc.
C'est plus facile, Jamf, à dire. Ouais.
Mais bon. Par exemple, Apple propose le compte Apple ID dit géré en entreprise. Donc, c'est un Apple ID managé ou géré. Donc, c'est un Apple ID avec des fonctionnalités liées à iCloud et autres. Donc, c'est très bien. Ça permet de faire des choses qu'on peut pas forcément faire, d'ailleurs, avec un compte Apple ID classique. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut pas faire avec un compte Apple ID managé qu'on peut faire avec un Apple ID classique. Je vais donner un truc très bête. La fonction sidecar de l'iPad. On branche un iPad, on l'utilise comme écran externe. Mais on peut pas le faire avec un Apple ID managé. Il n'y a aucune raison, je vois pas la raison technique qui fait que ça, on ne peut pas le faire, mais on peut pas le faire. Donc, du coup, Apple dit, OK, vous pouvez utiliser les Apple ID en entreprise, c'est super, mais en réalité, les fonctionnalités techniques derrière, elles sont super limitées par rapport à ce qu'on peut faire avec un Apple ID classique. Donc, pourquoi pousser l'un plutôt que l'autre? Donc, il y a comme ça des choses sur lesquelles je trouve qu'Apple est frileuse ou met des restrictions que je trouve un peu arbitraires et assez étrangement arbitraires, en fait, et sur lesquelles j'aimerais bien qu'ils s'assouplissent un peu. Parce que effectivement, avoir des Apple ID managés en entreprise, ce serait super, mais pas avec les limitations actuelles. Pas en disant à l'utilisateur, OK, t'as cette fonction-là, c'est super, on va te mettre un compte, mais en fait, par rapport à ce que tu peux faire sur ton iPhone, tu pourras pas tout faire. Bref, c'est dommage. Voilà. C'est juste dommage. Je pense que c'est intéressant quand Apple propose des solutions techniques qu'on n'a pas sur la concurrence et qu'elles sont simples à mettre en œuvre. Et la force d'Apple, souvent, c'est ce côté magique de fonctionnement entre les différents appareils. Voilà, tu as des fonctionnalités. La première fois que tu fais de l'airdrop entre ton Mac, ton iPhone ou un autre Mac, c'est génial. Mais la restriction arbitraire qu'Apple propose parfois sur cette fonctionnalité-là sont surprenantes et parfois gênantes. Donc, s'ils pouvaient assouplir ça, ce serait pas mal. Après, moi, je pense qu'ils ont énormément de marge de manœuvre derrière pour proposer des solutions bien plus avancées. Ils vont faire pas mal de modifications sur la partie MDM pour la rendre plus avancée aussi, plus réactive, etc. Donc, ça va venir, c'est plutôt sous les couches inférieures de l'OS qui a du boulot. La plus grosse difficulté, moi, pour moi, en entreprise, j'en discutais encore avec quelqu'un tout à l'heure. Coucou Laurent, s'il nous écoute. C'est qu'en fait, typiquement, les logiciels d'entreprise sont les plus compliqués à déployer. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ça doit être les plus simples à déployer, mais quand tu dois déployer un logiciel sur 300 postes, des fois, c'est un enfer parce que les produits sont pas adaptés, simplement. S'ils pouvaient faire des efforts là-dessus, ce serait pas mal. Et si Apple pouvait proposer des solutions pour qu'on puisse facilement déployer des logiciels, ce serait bien. Mais ça, encore, c'est un autre sujet.
Je vois que Apple a encore du boulot pour le télétravail. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode de Kernel Panic. Salut Guillaume.
Salut.
Salut Mathieu.
Salut. Merci pour l'invitation.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Ben, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.